Frères et sœurs et chers amis, nous continuons notre série concernant l'importance de la rédemption. Aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 16. Et le titre sera « Ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens ». Ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens. Nous, chrétiens, dans cette méditation, à être avant tout pratiques. C'est-à-dire, nous ne cherchons pas à présenter simplement la doctrine chrétienne en elle-même. La doctrine chrétienne s'y trouve, mais nous ne voudrions pas présenter les doctrines du christianisme sous une forme abstraite, si importante soit-elle. Ce que nous désirons, c'est que tout soit pratique et exprime, ou plutôt expérimental, et puisse être ainsi immédiatement saisi et éprouvé. Voyez-vous, il y a naturellement une différence entre les vérités et les faits de la vie chrétienne et leur explication. C'est-à-dire, il est possible que tous les faits soient réels dans une vie sans que la personne ne puisse expliquer ses faits. C'est une part du but de cette étude d'essayer d'expliquer les faits et de mettre chacun en présence des faits. Maintenant, toute explication de la vie chrétienne devrait être confirmée par l'expérience. C'est-à-dire, il faudrait que nous puissions dire « Oui, je n'aurais pas pu expliquer cela de cette manière, mais je connais exactement, dans mon expérience, ce dont vous parlez. Tout cela est une expression de ma propre vie. » Ainsi, l'explication doit sortir de l'expérience. L'expérience doit confirmer l'explication. Considérons donc maintenant ce qui arrive lorsque nous devenons des chrétiens. Nous consacrerons un peu de notre temps à chercher l'arrière-plan de cette question de devenir un chrétien, à reconnaître certains autres faits, donc des faits qui sont montrés et révélés dans la Sainte Bible et qui sont vrais dans l'expérience humaine. Lorsque nous considérons l'homme tel que nous le connaissons, l'homme par nature, la première chose que nous trouvons, c'est que sa relation avec Dieu est complètement brisée. Nous disons « brisée » parce que nous croyons à ce qu'enseigne la Sainte Bible. La relation qui était vraie un jour ne l'est plus. Si pour un moment, vous préférez mettre de côté ce mot « brisé » et le remplacer par celui de « rompu », vous pouvez le faire. Nous serons probablement d'accord à reconnaître que les choses ne sont pas en ordre entre l'homme et Dieu. La relation entre l'homme et Dieu est dans un état de chaos. C'est le fait fondamental. La relation est brisée. Elle est dans un état de tension. Il y a une distance entre l'homme et Dieu. La relation, ou peut-être devrions-nous dire le manque de relation, est quelque chose de très malheureux. C'est un état de complète impuissance dont rien ne peut sortir. C'est un état stérile et désolé qui ne peut porter aucun fruit. Pour beaucoup de monde, Dieu ne semble avoir aucune importance et il est complètement ignoré. Mais tout cela est plus ou moins neutre ou négatif. Dans la plupart des cas, la situation est pire encore. Elle est positivement antagoniste. L'homme est dans un état d'antagonisme à l'écart de Dieu. Dans sa propre nature et souvent dans sa pensée, même dans son attitude et la manière dont il parle de Dieu, il existe un état de conflit. Il y a de la méfiance dans l'esprit de l'homme à l'égard de Dieu. Beaucoup de ressentiments existent dans beaucoup de cœurs humains. Et nous pourrions aller encore plus loin car la Sainte Bible va jusqu'à nous dire que dans quelques cas peut-être nombreux, il y a même de la haine contre Dieu dans le cœur humain. Nous rencontrons cela quelquefois. C'est donc le premier fait. La relation entre l'homme et Dieu est dans un état de chaos. Elle est tendue, brisée ou rompue. Les facultés spirituelles ne fonctionnent pas. Et ce n'est pas tout. Il nous faut pénétrer à l'intérieur de cela et aller plus à fond. L'homme a un ensemble de sens qui appartiennent à son être spirituel et qui ne fonctionnent pas. Un ensemble de sens qui correspondent à ses sens physiques. Les sens physiques sont, comme nous le savons, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Mais l'homme a un autre ensemble de cinq sens qui ne sont pas physiques et qui appartiennent à son être intérieur. Ils sont la contrepartie de ces cinq sens physiques et dans l'homme par nature. Ces autres sens ne fonctionnent pas. La Sainte Bible parle de tous ces sens d'une manière spirituelle, d'une manière spirituelle en relation avec Dieu. Premièrement, nous avons dit, nous avons la vue. La Bible parle de voir Dieu. Ce n'est pas du tout quelque chose de physique. On ne voit pas Dieu par l'œil naturel. Nous avons ce petit passage que connaissent la plupart d'entre nous. Il est dit, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 8. Ce n'est certainement pas une question physique. Et puis nous avons l'ouïe. L'on peut entendre spirituellement Dieu et écouter la voix de Dieu, mais certainement pas par le moyen de l'oreille naturelle ou physique. C'est là, dans notre cœur. Ce n'est pas une voix audible que l'on entend, mais quelque chose qui correspond à cela de manière spirituelle. Certaines personnes peuvent dire qu'elles ont entendu le Seigneur leur parler, et cependant, elles n'ont jamais rien entendu par leur oreille naturelle. Il y a le goût. Oui, la Bible dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Psaume, chapitre 34, verset 9. Et personne ne pensera que ce soit une question physique. Ensuite, nous avons l'odorat. Cela semble être difficile, peut-être. Mais nous savons ce que nous voulons dire, sans qu'un facteur physique n'intervienne lorsque nous disons que nous sentons en quelque chose ou en quelque sorte. Nous entrons dans une chambre et d'une certaine manière, nous avons l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air. Les personnes présentes ont parlé entre elles et lorsque nous entrons, nous voyons de l'embarras sur leur visage. Elles se taisent tout d'un coup et se regardent les uns les autres et nous sentons quelque chose. Or, nous savons qu'il est possible, d'une manière analogue, de sentir la présence de Dieu. Il y a ainsi tout un ensemble de facultés spirituelles qui, lorsque elles sont dans l'ordre et la fonction qui leur sont propres, servent à nous garder en contact avec Dieu et, dans l'homme naturel, l'homme non régénéré, ses sens ne fonctionnent pas. Il ne voit pas Dieu de cette manière-là. Il n'entend pas Dieu lui parler. Il ne sent ni ne touche Dieu. C'est une chose immense que de toucher Dieu, non avec nos mains, mais d'une manière intérieure. Il n'est pas possible à l'homme naturel de goûter que le Seigneur est bon. Tous ses sens ne sont pas en ordre et cependant, la Sainte Bible en parle beaucoup. La Bible enseigne et l'état de l'homme le confirme que en ce qui concerne Dieu, l'homme est aveugle, l'homme est sourd, l'homme est engourdi, il n'a pas de sentiment, il est insensible pour Dieu. N'en est-il pas ainsi? C'est là, oui, c'est là, une véritable description de celui. Ce peut être vous qui écoutez maintenant ce message, qui n'a pas eu d'expérience chrétienne bien définie et réelle. Il ne voit pas Dieu de la manière dont nous venons de parler. Il n'entend pas Dieu, il ne sent pas Dieu. Dieu pour lui ou pour elle est irréel, éloigné, oui, très éloigné, un peu lointain. Du reste, il y en a qui disent, est-ce qu'il existe vraiment ? Il ne le connaît pas. C'est là le problème. Ce ne sera pas une réelle contradiction à tout cela et à ce qui suivra. Si nous disons que dans la plupart des cas, à très, très peu d'exceptions près, il y a cependant une conscience de l'existence d'un objet suprême qui demande à être reconnu. Notre point est qu'il n'y a point de communion, il n'y a point de compréhension, de connaissance, ni de relation vivante avec Dieu. Donc, on peut dire que l'homme par nature est mort pour Dieu. Ça, c'est grave. Mais la Sainte Bible va encore plus loin. Elle nous dit que l'homme, par sa naissance naturelle, manque encore d'une autre chose qui correspond à, puis-je employer ces mots, son existence biologique à sa vie. Nous avons une existence biologique que nous appelons la vie. Or, le fait que le Nouveau Testament désigne par deux mots différents deux classes d'hommes est très significatif Quand je parle de l'homme, vous avez compris, ça veut dire l'homme et la femme. Ce que dit la Sainte Bible, c'est que l'homme, par nature, est dépourvu non seulement des fonctions de ses sens spirituels, mais qu'il manque de ce qui correspond à son existence naturelle de la vie. En un mot, la Sainte Bible dit que l'homme est mort, il est non seulement aveugle et sourd et insensible pour Dieu, mais il est en plus mort pour Dieu. La mort s'est étendue sur tous les hommes, nous dit Romains chapitre 8 verset 12. C'est ce que dit la Sainte Parole. Donc, par nature, l'homme est mort pour Dieu. De plus, il est mort quant à la véritable signification de sa propre existence. L'homme, par nature, ne sait pas pourquoi il est né. Il ne sait pas pourquoi il a ou il est un être vivant. Et nous trouvons toutes sortes de définitions de son être, des explications et des excuses absurdes pour décliner toute responsabilité et ainsi de suite. Tout cela prouvant que l'homme est complètement mort quant à la signification de sa propre existence. Il en tire, le meilleur parti possible, et quelquefois l'homme fait quelque chose de très bon de sa vie, mais malgré tout, en ce qui concerne sa relation avec Dieu et sa relation avec l'éternité, l'homme ne sait pas pourquoi il est vivant, pourquoi il a un être. Il est donc mort à cet égard-là. Il est mort en ce qui concerne les choses éternelles et les valeurs célestes. Quelle chose futile et vaine que de parler à l'homme naturel des choses du ciel et des choses de Dieu. Alors il vous regarde, il s'étonne, il ne sait pas de quoi vous parler. Cela appartient à un monde qui lui est simplement inconnu. C'est pour lui quelque chose d'étrange, de lointain, qui n'a pas ou qui n'a absolument aucun intérêt. Il peut être, à certains points de vue, un homme très bon, d'une éducation très haute. Il peut occuper une position de très, très grande estime et d'un profond respect parmi les hommes. Il peut même être un homme très religieux. C'était un homme comme cela qui un jour est venu à Jésus. Un exemple remarquable du meilleur produit de l'humanité en dehors de Christ. Mais il y avait sur lui un grand point d'interrogation. Il était rempli d'interrogations. Comment ? Oui, comment ? Et Jésus lui répond en fait : vois-tu, il est inutile de te parler des choses célestes. Tu n'appartiens pas à ce royaume-là, car tu es mort à cela. Maintenant, est-ce vrai ? Nous avons dit au début de cette méditation que nous pouvions éprouver toutes choses. Ceci n'est pas seulement une déclaration de doctrine chrétienne abstraite, c'est une déclaration de fait qu'il est possible de vérifier. nous pouvons en connaître la vérité dès maintenant, et cela dans notre propre expérience. La plupart d'entre nous, c'est ce que nous étions dans le passé, mais par la grâce de Dieu, nous ne le sommes plus. Selon la Sainte Bible, l'homme est mort. Il est donc inutile de parler à un cadavre. L'on n'en tirera rien. En ce qui concerne les choses de Dieu, l'homme ne répond pas. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de rapport, pas de communion possible. C'est ce que confirme la Sainte Bible et l'expérience humaine au sujet de l'état de l'homme par nature. Tout cela nous amène à un point très pratique dans notre approche de cette question. Qu'est-ce qui arrive exactement lorsque nous devenons chrétiens? Il y a deux passages dans les Écritures du Nouveau Testament qui, je le crois, résume la réponse à cette question de manière très concise et très complète. L'un, c'est cette déclaration si familière et cependant si peu comprise par les chrétiens eux-mêmes, la déclaration faite à l'homme dont nous venons de parler et qui s'approcha du Seigneur avec sa grande question. Ces multiples comment? Oui, comment? Jésus le regarda simplement, sans essayer de répondre à sa question, parce qu'il savait quelle chose sans espoir c'est que de parler à un homme mort. Il le regarda et lui dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau, ou bien il faut que vous naissiez d'en haut. » Saint Jean, chapitre 3, verset 7. L'autre passage qui se trouve dans l'une des lettres de Saint Paul est aussi très connu. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Disons tout d'abord A, une nouvelle conscience. Nous avons dit que nous laisserions le côté négatif pour rester sur la ligne positive. Mais permettez-moi de dire ici, en parenthèse, que ce n'est pas devenir un chrétien que d'accepter ou d'approuver simplement les dogmes de la religion chrétienne ou de se joindre à une société qui serait considérée comme une institution chrétienne alors même qu'elle porterait le nom d'Église. Ce n'est pas cela, ce n'est pas du tout cela de devenir un chrétien dans le sens du Nouveau Testament. Le seul vrai moyen de devenir un chrétien, c'est de naître de nouveau, de devenir une nouvelle création, ce qui signifie que nous devenons un être différent de ce que nous étions auparavant et différent de tous les autres hommes qui n'auraient pas fait cette expérience. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens? Notre état de mort fait place maintenant à un état de vie. Cette autre vie, cette vie de résurrection que, par nature, aucun homme n'a jamais possédée, excepté Jésus-Christ. Cette vie-là, à laquelle nous ne donnerons pas même la terminaison du Nouveau Testament, nous est donnée le jour où, par un exercice de foi, nous nous tournons vers le Seigneur Jésus-Christ pour le recevoir comme notre Seigneur et comme notre Sauveur personnel. Une conscience nouvelle nous est aussitôt donnée. C'est là la première expérience fondamentale du chrétien. Le chrétien, à ce moment-là, s'élance dans la vie. Il commence à avoir immédiatement un nouveau langage. Il sait désormais ce que c'est que de vivre. Il connaît la signification de la nouvelle vie et ainsi de suite. C'est ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens. Eh bien, nous sommes vivants de mort que nous étions. Nous devenons vivants spirituellement. Mais ce n'est pas simplement le réveil de quelque chose. C'est le don de ce que nous n'avions jamais encore possédé, c'est-à-dire une nouvelle vie qui appartient à une nouvelle création, c'est-à-dire un nouvel ordre qui est un ordre céleste, car c'est une nouvelle naissance d'en haut. Jésus-Christ n'a jamais dit une chose plus vraie que celle-là. Il a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Si quelqu'un de ceux qui écoutent ces paroles n'a pas encore fait cette expérience, vous savez maintenant, après ce que nous venons de dire de l'état de l'homme naturel, que si vous voulez voir Dieu et voulez entendre Dieu et toucher et sentir Dieu de la manière dont nous avons parlé, il faut que quelque chose se fasse en vous radicalement et que vous naissiez tout à nouveau dans un autre royaume. Jésus-Christ a raison, au moins en cela, n'est-ce pas? C'est vrai, il faut. Ce n'est pas simplement l'impératif d'un commandement, ce n'est pas seulement la déclaration qu'il vous faut devenir chrétien pour être accepté par Dieu. C'est l'affirmation d'un fait fondamental et inévitable, que vous ne pourrez jamais connaître Dieu d'une manière réelle, encore moins avoir une communion vivante avec Dieu avant que quelque chose se soit produit en vous, pour vous donner une constitution entièrement nouvelle. Vous devez avoir une nouvelle vie qui est la vie même de Dieu. Et cela pour pouvoir comprendre ce que est Dieu et pour le connaître. Alors nous pouvons dire B, vous allez maintenant avoir une nouvelle conscience de Dieu. Cette vie nouvelle introduit immédiatement en nous, elle introduit en nous une nouvelle conscience de Dieu. Nous devenons aussitôt conscients de Dieu. Nous sentons Dieu. Dieu devient une réalité vivante. Il n'est plus éloigné. lointain et indéfini, il est désormais très précieux, très réel, oui, très merveilleux en vérité. Dieu est maintenant la plus grande réalité de toute notre vie. Nous connaissons Dieu d'une manière nouvelle. Nous avons une conscience nouvelle de Dieu. Merci Seigneur. C. Nous avons une nouvelle conscience de la signification de notre existence. Oui. Et nous trouvons ensuite avoir une nouvelle conscience de la signification de notre propre existence. Tout chrétien, s'il est réellement établi sur cette base de commencement de résurrection, entre immédiatement dans cette conscience. J'ai maintenant trouvé l'explication de la vie. J'ai maintenant la clé de la vie. Je sais que je suis né pour quelque chose. Je n'avais jamais compris jusqu'ici être réellement né en vue de quelque chose. Mais maintenant, je le sais. J'ai le sens d'un but à mon existence ici-bas. Un sens de destinée qui est comme enveloppé dans cette nouvelle expérience. Elle donne une explication à ma propre vie. Cela n'est-il pas vrai ? N'est-il pas vrai pour nous, chrétiens ? C'est cela, oui, c'est juste cela. Nous savons maintenant pourquoi nous sommes ici. D. Nous avons une nouvelle conscience de dessein et de vocation. Et pour faire un pas de plus, c'est une conscience nouvelle de dessein et de vocation. Ce n'est pas seulement que nous voyons une signification au seul fait que nous vivons, mais avec cette nouvelle vie, nous est donné le sens d'un but, en effet, et aussi un sens d'une nouvelle vocation. Nous nous sentons appelés à quelque chose. Nous n'avons pas besoin de recevoir beaucoup d'instructions à cet égard. Nous n'avons pas même besoin de l'attendre. L'enfant de Dieu, réellement né de nouveau, se met spontanément, instinctivement, à parler aux autres de son expérience. Nous pouvons éprouver notre vie chrétienne par cela. Il nous faut dire aux autres notre expérience. Il nous faut en parler. Il faut que les autres sachent. C'est la vocation qui paraît. Nous nous sentons appelés à quelque chose. Il y a du travail devant nous, et cela peut se développer, nous le savons, et peut devenir une vocation spéciale. Mais cette conscience de dessein, de sens et de vocation paraît avec cette vie nouvelle. Nous arrivons à « et » nous avons une nouvelle ou un nouvel ensemble de relations, un nouvel ensemble d'intérêts et de désirs. Et puis nous nous trouvons, oui, avoir un nouvel ensemble de relations d'intérêts et de désir, nous savons cela. C'est ce qui nous arrive. Il est donc inutile de parler à ceux qui n'ont pas fait l'expérience de ces choses-là. Ils ont leurs relations, leurs intérêts et leurs désirs, et ils nous mépriseront de ne pas faire ce qu'ils font, de ne pas aller où ils vont, et de ne pas nous engager dans les choses qui sont tout pour eux. Ils ne nous comprennent pas. Ils pensent que nous avons manqué notre voie, que nous avons perdu tout ce qui avait une valeur réelle. Mais nous savons très bien que c'est juste le contraire. Nous ne les mépriserons pas, surtout pas. Mais nous en avons de la peine. Nous les plaignons. Nous avons été amenés dans un ensemble de relations sublimes et superlatives. Les chrétiens connaissent la signification d'une petite phrase qui fut employée à l'adresse de quelques-uns des premiers serviteurs de Dieu qui avaient été arrêtés pour avoir fait cette chose même, pour avoir accompli, exprimé ce sens de vocation et ne pas l'avoir gardé en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils avaient été arrêtés. Ils avaient été amenés devant les autorités et menacés. Mais quand ils furent relâchés, ils sont venus auprès de leurs frères et sœurs. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23. Nous savons ce que cela signifie. Il y a pour le chrétien de nouveaux frères et de nouvelles et de nouveaux sœurs, de nouvelles relations, une nouvelle famille, un nouvel ensemble de désirs et d'intérêts. Nul autre ne saurait comprendre ni apprécier cela, mais le chrétien, lui seul, le connaît. Nous arrivons à F. Nous avons là un nouvel ensemble de capacités. Oui, nous avons de plus un nouvel ensemble de capacités. C'est une chose merveilleuse que cette vie de la nouvelle création, cette vie née de nouveau, cette véritable vie chrétienne, nous recevons un nouvel ensemble de capacités mentales, quelque chose de différent de la capacité mentale naturelle. Oui, quelque chose qui y est comme ajouté et qui la dépasse entièrement. C'est une nouvelle compréhension des choses et c'est là une des merveilles de la vie chrétienne. L'on peut rencontrer une personne qui n'avait pas joui de très grands avantages, ni au point de vue intellectuel, ni au point de vue de l'éducation, ni en aucun autre domaine. Une personne très ordinaire. Et cependant, si elle est entrée dans une expérience véritable de la vie chrétienne, il sera remarquable de voir la compréhension et l'intelligence entièrement nouvelle qu'elle a acquise. Elle aura une vision des choses que l'homme de la plus haute éducation et du cerveau le plus grand sera par ses seuls moyens naturels entièrement incapable de saisir ou de comprendre. C'est donc là quelque chose que le chrétien sait être vrai. Nous pouvons penser très souvent qu'une personne, à cause de ses succès et de ses qualifications académiques, doit pouvoir nous comprendre, que nous devons certainement avoir ensemble un bon entretien et une véritable communion. Et cependant, dès que nous commençons à parler des choses du Seigneur, nous rencontrons un vide absolu. Elle ne sait pas de quoi nous parlons. Mais ici, nous avons ce simple homme ou cette simple femme qui sait. Le chrétien a une nouvelle faculté mentale, un nouvel ensemble de capacités et de talents pour comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Oui, pour connaître ce que aucun homme, aucune femme naturelle ne saurait connaître, non par l'étude, mais simplement par la communion avec Dieu. Et ces capacités nouvelles et merveilleuses grandissent et se développent à mesure que le chrétien avance. Nous nous trouvons avoir de nouvelles forces d'action et d'endurance, et cela pour agir. Le chrétien a le pouvoir de faire des choses que ne peuvent pas faire les autres, un pouvoir d'énergie, un pouvoir de victoire, un pouvoir d'action. La plupart de ceux qui écoutent, hein, ou de ceux qui lisent la Sainte Bible me comprendront. Si je dis que quelque chose en vérité, très souvent, il semble que le Seigneur prenne la peine de saper carrément notre capacité naturelle d'action afin de nous faire entrer dans une vie où nous devrons agir sans capacité, sans aucun ou aucune explication naturelle. Lorsque nous considérons beaucoup de ce qui a été fait par de vrais chrétiens dans l'histoire de ce monde, nous ne pouvons pas l'attribuer à des capacités naturelles. Ils étaient en eux-mêmes des êtres faibles, des êtres frêles, des êtres dont le monde n'aurait fait aucun cas. Mais nous voyons tout simplement ce que Dieu accomplit par les choses faibles et les choses qui ne sont point. Nous arrivons à G. Là, nous avons une nouvelle espérance. Oui, une nouvelle espérance. C'est la caractéristique du véritable chrétien. Une perspective entièrement nouvelle qui s'est levée à son horizon, et nous reviendrons à cela un peu plus loin. Mais il faut dire ici que le chrétien, s'il est un vrai chrétien, n'est pas quelqu'un de caractérisé par le découragement, par le désespoir, par un sens de perte finale et de découragement. Non, 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 non. Le chrétien est quelqu'un dans l'être duquel est enracinée profondément la conscience d'avoir devant lui quelque chose de merveilleux, quelque chose de futur. La pensée finale de l'au-delà n'est pas pour lui un système d'enseignement sur le ciel ou son opposé. elle est dans le cœur, dans la vie, elle est là comme une puissance dynamique. Quelle est la force qui a gardé les chrétiens à travers les difficultés et des souffrances et une opposition inexprimable? Qu'est-ce que c'est? D'autres capitulent, d'autres lâchent tout et tombent dans le désespoir. Mais le chrétien, il continue tout simplement, et ce n'est pas parce que le chrétien a une résistance naturelle, pas du tout, ou meilleure que les autres, avec plus de ténacité et d'opiniâtreté, pas du tout. Il arrive si souvent que les chrétiens soient les faibles aux yeux des hommes. Mais il y a en eux cette continuité dans leur marche en avant. Ils sont saisis par une conviction intérieure que cette vie n'est pas tout, que cette vie n'est pas une fin, qu'il y a quelque chose au-delà. Il y a en eux cette espérance qui leur est venue du Dieu de l'espérance. Oui, chers amis, quelle est donc l'explication de tout cela? Eh bien, c'est une vie nouvelle, une nouvelle conscience, une nouvelle relation. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'exagérons pas la vie chrétienne. À quoi tout cela revient-il? Quel en est le secret caché? Voyez-vous, ce n'est pas que le chrétien reçoive simplement des choses abstraites. On peut parler de vie, on peut parler d'intelligence, on peut parler d'espérance, on peut parler de puissance. Mais ce ne sont pas simplement des choses abstraites. Le vrai chrétien naît de nouveau. Il ou elle a reçu non pas des abstractions, mais il ou elle a reçu une personne. Je répète, il ou elle a reçu une personne. L'explication qui embrasse tout cela, c'est le don du Saint-Esprit. Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Ni autre que Dieu et le Saint-Esprit a l'intelligence et la connaissance de Dieu. Tout ce qui est vrai de Dieu est vrai du Saint-Esprit. Or, si Dieu donne le Saint-Esprit à une personne pour qu'il ou elle réside en elle, c'est plutôt pour que le Saint-Esprit, vous l'avez compris, réside en nous, en vous, et que cette personne apprennent depuis le commencement, comme l'apprendrait un petit enfant, à marcher de jour en jour, tout simplement, d'année en année, en communion avec le Saint-Esprit qui demeure en elle. Elle devra nécessairement grandir dans toutes les caractéristiques que nous avons mentionné. Elle devra connaître en premier lieu la vie divine, la propre vie de Dieu en elle, C'est une chose des plus merveilleuses. Lorsque nous y réfléchissons un peu plus, nous n'avons pas seulement une chose, mais nous avons lui-même, nous avons Dieu en Christ par le Saint-Esprit. Je répète, nous n'avons pas seulement une chose quelconque, mais nous avons lui-même Dieu en Christ par le Saint-Esprit, comme notre vie même. J'aime la manière dont la Sainte Bible nous exprime cette vérité-là, cette vérité au sujet de Dieu. Il est dit dans Deutéronome, chapitre 30, verset 20, « Il est ta vie et il est la longueur de tes jours. » Pensons à cela. Voyez-vous, cela signifie que si Dieu est réellement notre part, s'il réside en nous, notre durée, notre espace dans le temps ne seront pas dictés par des facteurs naturels. Il est, lui, la longueur de nos jours. Ça change tout. Nous mourrons lorsque il dira que le moment est venu, et pas avant. J'ai bientôt 87 ans, et je vous parle ce matin de bonheur, ce message. Je suis fragile, j'ai été plusieurs fois entre la vie et la mort, et sur le point de vue humainement parlant, je n'aurais pas pu ou j'aurais pas dû vivre plus de 40 ans. Eh bien, je vais de jour en jour. Je dis au Seigneur, parce que je lui dois tout, absolument tout. Si vous saviez quelle était ma vie, eh bien, il m'a tiré de la fosse. Et de ce fait, j'ai une très grande reconnaissance, en quelque sorte une très grande dette envers le Seigneur. Je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par les œuvres, mais pas du tout, du tout. Non. Non, je n'ai pas dit que nous sommes sauvés par certains mérites. Mais, du point de vue de ma conscience, ça regarde que moi, ça implique que moi, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai l'impression que je lui dois tout. Alors je lui dis, je te servirai jusqu'au dernier souffle. Et, de jour en jour, il m'aide, malgré quelques ennuis sur le plan physique. Hein, on ne peut plus faire du neuf avec du vieux. Je ne peux pas courir après un bus comme je le faisais autrefois. Je ne peux plus lever des choses lourdes et les porter sur une certaine distance. Il y a beaucoup de choses qui ne vont plus de la même manière. Mais, de jour en jour, chaque jour, le Seigneur me donne à pouvoir continuer tant qu'il le voudra, tant qu'il le voudra lui. Et nous le voyons, toutes choses sont entre ses mains. Et jusqu'à ce que l'heure soit arrivée, les menaces pourront être nombreuses. Mais sa vie persistera et nous relevons toujours. Nous pensons que la fin était venue, eh oui, mais nous nous relevons pour continuer encore, parce que il est, lui, notre Dieu, notre Seigneur, notre vie. Le Saint-Esprit est appelé Esprit de vie. Romains, chapitre 8, verset 2. C'est une chose merveilleuse que d'avoir résidant en nous une telle personne. Et de même, s'il a toute l'intelligence divine, et si nous sommes à son école, si nous vivons avec lui, si nous sommes en communion avec lui de jour en jour, nous croîtrons dans cette intelligence que ne possède aucun homme naturel. Nous croîtrons en connaissance, nous croîtrons en intelligence, nous croîtrons dans ce pouvoir de nous saisir des choses de Dieu que personne ne saurait comprendre sans l'Esprit de Dieu. J'aimerais souligner cela. C'est le Saint-Esprit lui-même. Oh, je sais que les chrétiens en général croient au Saint-Esprit. La majorité des chrétiens croient en la personne du Saint-Esprit. Ils se servent de l'article « le Saint-Esprit ». C'est une part de notre foi chrétienne que de croire au Saint-Esprit comme à une personne, d'avoir une connaissance de la doctrine du Saint-Esprit, de son œuvre et de sa puissance. Et il y a cependant, parmi les chrétiens, un manque de compréhension lamentable quant à ce que signifie avoir le Saint-Esprit demeurant réellement en nous. Ce manque se révèle et se manifeste par le fait qu'ils pourront agir et parler parfois de manière si contraire au Saint-Esprit sans paraître être repris par lui. Il est vraiment surprenant de voir combien de chrétiens peuvent parler d'une manière qui ne peut certainement pas être approuvée par le Saint-Esprit, tout en paraissant parfaitement inconscient d'être désapprouvé par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens peuvent croire des mensonges à l'adresse des autres, et même, ce qui est pire, de les répéter, sans jamais cependant éprouver le reproche du Saint-Esprit. Cela m'était arrivé il y a autrefois, mais maintenant, eh bien tout à coup, le Saint-Esprit m'arrête. Il y a là quelque chose de mal en ce qui concerne l'expression pratique du Saint-Esprit « demeurons en nous », car il est l'Esprit de vérité. Or, la véritable vie chrétienne signifie que là où le Saint-Esprit est en désaccord avec une chose que nous aurions dite ou faite, ou bien avec la manière dont nous l'avons dite ou faite, nous en serons conscients. Et comment? Nous devrions aussitôt entendre, non par une voix, par un sens, le Saint-Esprit nous dire, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi. Ceci est mal. Ceci n'est pas bien du tout. Ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas aimable. et ceci n'est pas bon. Ceci n'est donc pas obligeant. Il est très nécessaire que la réalité de l'esprit résidant en nous soit exprimée dans toute notre attitude. Le fait de ne pas reconnaître et ne pas sentir et de ne pas discerner ne signifie pas cependant que l'esprit ne soit pas en nous. Pas du tout. Il signifie simplement, lorsque on en est ainsi, que nous ne marchons pas sur le moment dans l'Esprit Saint. Il y a de notre part un ajustement à faire. Il y a, bien entendu, un fait que la vie ne va pas toujours automatiquement. Il nous faut de la discipline dans notre vie. Il nous faut une certaine volonté. Il nous faut parfois nous battre. C'est pas automatique. Mais pour en arriver au côté positif, la vraie vie chrétienne peut être et doit être exprimée de cette manière, puisque le Saint-Esprit réside en nous lorsque vous ou moi nous disons ou faisons une chose qu'il n'approuve pas. Et nous le savons aussitôt. Nous avons en notre être intérieur un sentiment pénible dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Nous devons reconnaître, évidemment, j'ai eu tort en ce que j'ai dit ou en ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi et efface-le. Et si cela a fait du tort à quelqu'un, eh bien, essayons de le réparer. C'est très important cela. Et c'est parfois difficile. Il faut être capable de nous humilier, ôter notre vilaine fierté. C'est cela, une vie dans l'esprit. C'est tout à fait quelque chose de sérieux. C'est ce qui arrive lorsque nous devenons chrétiens. Et c'est ainsi que cela commence. Les commencements sont très simples. Si vous êtes encore jeune dans votre vie chrétienne, vous devez certainement avoir de ces expériences très simples. Peut-être allez-vous faire une chose dont vous aviez l'habitude et quelque chose en vous vous arrête net. Oh, non plus maintenant. Cela appartenait au passé, je l'espère. C'est un simple commencement, n'est-ce pas? Si vous persistez, eh bien vous vous brûlerez les doigts parce que vous êtes vivant. Si vous étiez mort, vous continueriez à faire ces mêmes choses sans les sentir, parce que vous êtes mort spirituellement. Mais c'est parce que vous êtes vivant que vous y êtes devenu sensible. Oui, nous allons terminer tout à l'heure. C'est ce qui arrive, chers amis, lorsque nous devenons chrétiens. Certaines choses vont radicalement changer. Mais il est important que tous ceux qui viennent à Christ en nos jours, qui sont au commencement de leur vie chrétienne, sachent réellement en quoi ils sont entrés, sachant réellement ce qui leur est arrivé. Je ne dis pas que nous serons dans une seconde parfaite, nous ne le serons jamais. Mais ce n'est pas parce que vous aviez peut-être l'habitude, l'envie ou même le besoin de fumer de temps en temps un joint, comme on dit aujourd'hui, que cela doit continuer ainsi. Mais non, vous pouvez recevoir une nouvelle puissance pour en être libéré. Il devrait pouvoir dire, oui, tout cela est vrai. Je n'aurais pas pu expliquer tout cela autrefois. Je n'aurais jamais pu l'exprimer par des paroles ni le définir, mais je connais ce dont vous parlez maintenant. Cela est vrai dans ma propre expérience aujourd'hui. Mais voyez-vous, c'est quelque chose de plus qu'un simple sentiment. Il nous faut comprendre, il nous faut être intelligent à l'égard de toutes ces choses. Que Dieu fasse de nous des chrétiens intelligents selon l'Esprit Saint, des chrétiens qui avancent pas à pas dans une vie de communion avec son Esprit en nous et qui croître continuellement, pas à pas, pas peut-être tout d'un coup comme certaines aimeraient, tous on aimerait grandir d'un seul coup. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Que Dieu préserve tout jeune chrétien qui écoute cette étude d'être encore dans 5, 10 ou 20 ans exactement ce qu'il est maintenant. Mais cela n'est pas nécessaire, pas du tout, parce que Dieu en soit loué. Être né de nouveau, ce n'est pas la fin de la vie, ce n'en est que le commencement. Amen. Et nous allons maintenant terminer par la prière. Mais je voudrais vous dire un ancien cantique, les paroles d'un ancien cantique. Ces paroles sont « Soleil de justice, salut des pécheurs, d'un regard propice réjouis nos cœurs, répand dans nos âmes la paix, la santé et les pures flammes de ta charité. Reçois nos cantiques, Jésus, roi des rois, au cœur angélique, nous joignons nos voix. Nous voulons sans cesse célébrer ta mort, tes soins, ta tendresse et ton long support. Prions. Ô notre Dieu, si le roi, prophète, soupirait après ton temple, ton tabernacle, ta présence, que sera-ce pour nous d'être recueillis avec les serviteurs fidèles de tous les temps dans la Jérusalem céleste, dans tes tabernacles éternels, au pied de notre Sauveur, pour le célébrer à jamais? Que seront auprès des conceptions les plus belles et les plus grandes de notre intelligence et de notre cœur, les réalités du ciel, et auprès des aspirations et des soupirs de la terre, les rassasiements de joie qui attendent dans ta gloire les rachetés de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as révélé quelque chose de cette gloire et de cette joie pour nous soutenir et nous encourager au milieu de nos difficultés de tous les jours. Que la pensée du salut que notre Sauveur nous a acquis nous accompagne sans cesse et que notre cœur s'assure et se réjouisse en lui. Ce ne sont pas des images que tu nous présentes, ô notre Dieu. Toutes tes paroles sont véritables et certaines. Prépare-nous pour cette vie où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, où la mort ne sera plus, où toutes choses seront faites nouvelles et où tu seras toi-même tout en tous. Que chaque jour soit pour nous un jour de progrès dans la vie de la foi et de l'amour, et que ta grâce et ta paix habitent dans notre cœur et dans notre maison, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Et chers amis, souvenez-vous que le Seigneur vous aime et je vous souhaite toute sa bénédiction. Soyez bénis pour toute cette journée qui s'ouvre maintenant, puisque à ma montre, il est bientôt 8h du matin. Chers amis, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir.